de jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent, ce sera tout à fait comme à la radio, ce ne sera rien, juste pour faire du bruit, le silence.
Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, Honte Femme Radio Zone, nous sommes complètement haletants, nous courons, nous avons couru, nous avons été pris dans des embouteillages. Tous les gens aujourd'hui ont pris leur voiture plutôt que de prendre ces bus qui font la grève. Quelle horreur, la grève! Comment peut-on faire la grève dans un si joli pays comme la Suisse? Enfin, nous en reparlerons. Nous sommes là en tout cas à nos postes, Marie-Ange à la technique. Et puis nous avons une invitée, nous sommes très contentes de recevoir avec nous pour les nouvelles Rina Nissim qui revient d'Israël, qui a été faire un tour dans les territoires occupés et qui nous parlera de la situation, de ce qu'elle a pu voir là-bas, des femmes qu'elle y a rencontrées. Dans quelques instants, donc, nos nouvelles suivies du Memento. Marie-Ange, bien sûr, nous a concocté toute une série de rendez-vous et un grand, grand programme musical ce soir. Radio Pleine Lune, 93.8 MHz. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, 50 40 51 41 023 depuis Genève, 033 depuis Delémont. Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, nos nouvelles. À Genève, la grève des fonctionnaires a été largement suivie. Ce matin mercredi, entre 8 à 10 000 personnes se sont retrouvées sur la plaine de Plainpalais, arborant fièrement le badge des grévistes qui disait « Il freine, je débraye ». Venus de nombreux services de la ville et de l'État, on a pu voir les gens de la chancellerie, et oui, ce qui en général vous ennuie toujours quand vous voulez renouveler votre passeport, le cadastre, les pompes funèbres, les bibliothèques, le service des jardins et parcs, les gendarmes municipaux, les travaux publics, l'inspection du travail, les services médico-pédagogiques, l'université, les centres de recherche, la voirie, les TPG bien sûr qui étaient venus dans un nombre impressionnant, les pompiers tous en uniforme, sans femmes bien sûr, puisqu'elles ne sont toujours pas acceptés. Les enseignants et les infirmières ont fait la grève eux, cet après-midi et sont restés plutôt sur leur lieu de travail. Le cortège impressionnant s'est rendu devant l'hôtel de ville pour déposer une motion au Grand Conseil. Quelques incidents ont eu lieu entre autres à l'université où l'immatriculation a eu lieu malgré la grève et de nombreuses secrétaires étaient là faisant leur travail tout en arborant le badge des grévistes. À la demande que les immatriculations soient bloquées pendant quelques heures, l'administration a répondu de façon assez sévère et sans vouloir du tout entrer en matière et en surveillant les employés. Les grévistes ont alors décidé de bloquer les accès des escaliers et des ascenseurs pour empêcher les étudiants d'aller s'immatriculer. Alors nous avons fait un petit tour d'horizon des grévistes et voici qu'est-ce que nous y avons retrouvé. La première question que nous avons posée, c'était qu'est-ce que ça fait d'être pour la première fois en grève ?
À Genève, il n'y a pas souvent l'occasion de faire la grève.
Et puis comment on sent là dans cette ambiance ?
Ah ben j'aime bien, je trouve qu'il y a, il me semble que ça rapproche les gens, c'est très sympathique, on rencontre des vieilles copines, c'est très bien.
Oui, c'est la première fois.
Et puis comment vous vous sentez ?
Je trouve ça intéressant.
Oui, la grève, oui, pas la manifestation.
Comment on se sent dans cette ambiance ?
Ben, je crois qu'on se sent très bien parce qu'il y a une ambiance de solidarité. On voit les gens de classes diverses, même des classes élevées, qui débrayent quand même pour nous soutenir.
La première fois, madame, oui.
Sans.
Ah, je me sens bien, oui, je me sens dans ma peau.
Vous êtes dans quelle classe? Vous êtes dans quelle classe?
Ah, moi, c'est la quatrième classe. Je pense que c'est la quatrième, non? Non? Douce.
Moi, je ne sais pas la vôtre. Moi, je sais la mienne, mais la vôtre, je ne sais pas.
C'est un ami dit que c'est de plus, que, je, que c'est de plus de classe, mais on ne me rappelle pas.
Puis l'argent que vous recevez avec le rattrapage, c'est important dans votre budget?
Très important, parce que pour Noël, ça se prend beaucoup d'argent avec la famille, avec tout, et après, c'est très important. Oui.
Et pour moi aussi. Vous savez, bien, quand on a une famille, la vie aussi chère que ça, on ne compte soutenir le peu, quoi. Merci. C'est le petit sou qui compte, petit à petit.
Ah, moi, je fais partie des gens qui sont dans une classe inférieure, donc moins de la classe 15. Donc pour moi, c'est extrêmement important. Ça aide, par exemple, à payer le reste des impôts.
Merci. Non, pour moi, pas tellement, mais je trouve que c'est le principe, je suis contre le principe.
Pas vraiment, mais je le fais surtout par soutien pour les autres gens qui tiennent vraiment.
Vous êtes dans quelle classe de salaire?
Classe 11.
Le rattrapage, c'est une partie importante pour votre budget?
Non, c'est plutôt pour une question de principe.
Et vous?
Oui, moi aussi.
Beaucoup. Parce qu'ils ne nous donnent pas le rattrapage l'année en entière, on n'arrivera pas à payer nos appartements, nos assurances et puis donner à manger à nos enfants. Moi, je trouve que le rattrapage, ça peut être pour tout le monde, pas seulement pour les classes basses, parce qu'on fait tous partie, on travaille, tout le monde travaille, tout le monde a besoin de gagner sa vie. Je trouve que c'est pas normal.
Vous faites partie du syndicat?
Oui.
Vous venez d'où?
Hein?
Le SASCOM,
c'est les soins à domicile, les infirmières à domicile. Et hier soir, on a eu une discussion entre nous et la plupart étaient d'accord d'abord de débrayer. On était la majorité pour débrayer. Et ensuite, il y a, pour une raison, parce qu'on a reçu un téléphone en disant qu'on recevait le rattrapage, alors tout on dit, oh ben ça ne sert plus à rien de lutter. On est d'accord, puisqu'ils sont d'accord, on dit non au débrayage. Mais ils l'ont dit avant la réunion qui s'est passée, comment ça s'appelle la salle du Faubourg. Et puis là, quand elles ont vu tout ce qui s'est passé, elles ont dit, on s'est fait avoir. Et puis on va réfléchir à ça parce qu'on est des novices. Alors c'est vrai qu'on s'est fait avoir.
Mais elles ne font pas grève. Certaines font grève.
Alors elles ont dit qu'elles restaient quand même sur leur position. Malgré tout, j'ai discuté encore après. J'ai dit,
L'après-midi, c'était autour des enseignants de faire grève. Et là aussi, nous sommes allés tendre notre micro pour savoir comment on sent quand on fait la grève pour la première fois. Et est-ce que ce rattrapage, finalement, a une partie importante du budget?
Vous êtes membre du personnel administratif d'un collège, madame, et vous débrayez aujourd'hui. Pour vous, c'est important de marquer ce désaccord avec le Conseil d'État?
Très important, très très important.
Pourquoi? Qu'est-ce qui vous semble particulièrement grave dans la prise de position du Conseil d'État? C'est le rattrapage qui va vous manquer de façon importante au mois de janvier?
Disons pas que ça va me manquer d'une façon importante à moi, mais les classes qui sont en dessous vont être très touchées. Et ce qui m'a surtout monté contre le Conseil d'État, c'est leur histoire de vouloir redescendre les infirmières d'une classe. Et s'il y a du personnel qui mérite son salaire largement, c'est bien le corps infirmier. Ils ont des conditions de travail très dures. Ils ont des samedis, dimanches qui ne peuvent pas passer avec la famille, des nuits. Alors j'estime qu'on devrait plutôt les augmenter que les diminuer.
Vous faites pour la première fois grève, je pense.
Ah oui, alors ça c'est la première fois.
Qu'est-ce que ça vous fait? Vous trouvez que c'est un moyen difficile à choisir?
Oui, oui, oui et non, parce que je n'ai pas hésité longtemps à faire grève par signe de solidarité. On dit que les fonctionnaires sont privilégiés. Nous sommes privilégiés dans le sens que nous avons une stabilité de travail, c'est-à-dire qu'on a la garantie de l'emploi. Mais quand on pense qu'au privé, comme j'ai une collègue qui vient d'être engagée depuis 2 ans, elle a perdu 200 francs par mois en rentrant à l'État. Une assistante sociale qui était aussi dans le privé a perdu 600 francs par mois en rentrant à l'État. Donc, et nous n'avons pas le 13e salaire, donc ce n'est pas un privilège.
Merci. De toute façon, vous avez Oui, bien sûr, il y a des questions. Nous sommes là dans la cour d'un collège, j'ai trois enseignantes en grève. J'aimerais savoir ce que vous pensez du fait d'avoir choisi la grève comme moyen pour manifester votre désaccord avec la décision du Conseil d'État.
Moi, j'aurais préféré un autre moyen. Je suis contre, disons, cette suppression, bien sûr, de cette allocation. Mais je pense qu'on aurait dû trouver un autre moyen. Mais comme je n'en trouvais pas d'autre, j'étais d'accord de participer à cette grève.
Qu'est-ce qui te gêne dans le moyen en question ?
Ça me gêne de faire la grève. Je pense que c'est peut-être pas un bon exemple à donner à nos élèves.
Tu peux m'expliquer un peu plus encore ? Pourquoi c'est un mauvais exemple pour les élèves qui voient que des travailleurs prennent en main leurs conditions de travail ? Ça te dérange ?
Non, disons, ce qui me dérange plus peut-être, c'est qu'on parle tellement de surcharge, qu'on a beaucoup de travail à l'école, qu'il y a une surcharge des programmes et qu'en fait, on ne donne pas des cours qu'on devra d'une manière ou d'une autre rattraper. Donc c'est plutôt en fait dans ce sens que ça me gêne de faire la grève.
Alors, je fais la grève parce que je la fais par solidarité avec les bas salaires. Je ne suis absolument pas d'accord qu'on supprime le rattrapage pour les bas salaires, alors que pour moi, je serais tout à fait d'accord de m'en passer.
Justement, cette revendication, donc on est en grève pour défendre le rattrapage, pour vous, ça représente une chose importante dans votre salaire, par exemple ?
Alors, pour moi, c'est une chose extrêmement agréable, mais je peux parfaitement maintenant m'en passer. Je le ferai vraiment très volontiers, à condition que les bas salaires n'aient pas à en souffrir. Donc, j'estime que le rattrapage est dû pour les bas salaires.
Je pense que c'est beaucoup plus une question de principe, disons, qui nous gêne, que effectivement la somme que nous touchons, vu les salaires que nous avons déjà.
Mais en l'occurrence, le Conseil d'État a justement proposé de verser l'allocation qu'au bas salaire, c'est-à-dire de la classe 4 à la classe 14. Donc tu aurais été prêt à renoncer à la grève pour ça ?
Non, c'était trop tard. La bonne volonté s'est manifestée trop tard. Si elle s'était manifestée beaucoup plus tôt, oui, je ne faisais pas la grève. Oui. Donc toute la démarche m'a semblé antidémocratique. On aurait pu s'imaginer une démarche de consultation avant de proposer des mesures de ce genre.
Est-ce que vous savez si vos élèves savent pourquoi vous débrayez et qu'est-ce qu'ils en pensent, comment ils réagissent ?
Alors, nous avons passé une heure à expliquer, à essayer de comprendre, et ça a changé les opinions dans la classe, puisqu'ils n'avaient pas compris pourquoi moi ou nous ne voulions pas travailler cet après-midi. Et peut-être qu'ils ont un peu mieux compris.
Ils enlèvent du salaire, ils ont les moyens de nous payer l'allocation de rattrapage en janvier, ça fait à peu près 50 millions.
Moi, je te propose de présenter cette motion à l'Assemblée Générale tout à l'heure.
Là, on est un petit peu dans le noyau dur des grévistes d'un collège du cycle d'orientation. Qu'est-ce que vous pensez de la participation ?
Tout à fait satisfaisante, chère madame.
Elle se fait à combien de pourcentage dans votre collège ?
À peu près 87%.
Et les gens qui ont refusé de faire grève, c'est souvent pour quel type d'argument ?
Que les mesures qui ont été prises par le Conseil d'État étaient favorables à la vie du canton et qu'il fallait sauver les finances publiques d'un naufrage définitif. Et d'autre part, qu'on ne pouvait pas, pour des raisons aussi futiles, interrompre la culture du corps des élèves.
Je crois savoir qu'à cela, vous leur avez suggéré, si jamais nous gagnons, de rembourser leur allocation de rattrapage ?
Absolument. Et nous attendons d'ailleurs avec impatience l'arrivée de ces fonds nouveaux pour pouvoir organiser une grève future.
Tu es membre du bureau de l'association très récemment. Tu es une nouvelle dans l'équipe. Eux, c'est les vieux durs.
Moi, je suis une jeune dure. Enfin, pas vraiment dure, mais...
Pour toi, c'est important de t'engager comme ça dans la défense des intérêts des enseignants et de la fonction publique ?
Tout à fait, ça fait partie des revendications. On appartient à un corps, on participe.
Et puis, tu es surpris de voir les arguments des gens qui refusent ou qui ne refusent pas ?
Oh, je suis surtout surprise de la politique de désinformation qu'on a dans la presse actuellement.
Tu penses qu'il influence les gens sur leur choix de leur participation au mouvement ou pas ?
Je pense que dans la fonction publique, oui, pour grande part, il peut y avoir des influences.
Pour toi, l'allocation de rattrapage, c'est une chose importante dans cette histoire ?
Personnellement, pas du tout.
Donc, qu'est-ce qui fait que tu t'engages comme ça ?
Ce qui fait, c'est justement l'appartenance à un corps professionnel et à la fonction publique, justement.
Et tu trouves qu'on a remis en cause un acquis et que c'est inadmissible ?
Un acquis social, oui. Et lorsqu'il y en a un, ça se discute surtout avant de l'ôter. Donc c'est surtout la manière dont cette mesure a été proposée qui est inadmissible.
Ça te semble être une chose importante, cette façon de décentraliser la lutte. Là, nous, on est dans un collège, ce n'est pas un syndicat centralisé. C'est une structure qui te semble bien à même de faire bouger les gens.
Alors, je ne connais pas très bien ce qui se passe au niveau des structures dans tous les autres lieux de la fonction publique. Ceci dit, il existe des structures fêtières qui font que, justement, il y a quand même un rassemblement, cette fois-ci, on le voit aujourd'hui, qui est assez généralisé.
Merci. Tu es...
Nous avons quelques chiffres qui viennent d'être donnés à la conférence de presse tenue par le cartel. Alors, il y a eu la grève des fonctionnaires a été largement suivie. 15 900 personnes ont été en grève aujourd'hui, 2 500 personnes dans l'administration, les TPG dans leur totalité, 1 000 grévistes, 4 000 enseignants et dans les hôpitaux, 6 500 grévistes. La police de sûreté n'a pas fait grève aujourd'hui, mais elle a tenu une assemblée générale et elle a signé une pétition portant son solidarité avec les objectifs de la grève. La pétition a été signée à 90%. C'est vraiment une première dans la police genevoise. Quant aux gendarmes et aux contractuels, eh bien aujourd'hui, ils n'ont dressé aucun PV et ont fait aucun contrôle radar. Les écoles, dans les écoles primaires, un tiers des écoles ont débrayé, un tiers ont assuré une permanence et un tiers ont assuré une récréation prolongée. Les cycles ont aussi relativement bien suivi les mots d'ordre de grève. Alors, pour le futur, le Conseil d'État s'engage à donner une réponse le 7 novembre et le 13 novembre, Assemblée générale des fonctionnaires, pour discuter de la suite de l'action. Alors nous avons ici avec nous Rina Nissim, Rina qui vient de rentrer d'Israël où elle a été pour un peu plus d'une semaine je crois,
deux semaines.
Et au cours de ce voyage, tu t'es bien sûr rendue à la fois dans les territoires occupés à Jérusalem Est et Ouest, on pourrait dire, et tu as entre autres rencontré de nombreux groupes de femmes. Alors avant d'aborder cette question, dis-nous un peu tes premières impressions, la situation maintenant.
Bon, d'abord, ma première impression, je n'ai pas été en Israël depuis longtemps. Ma première impression, c'est que c'est complètement européen, c'est complètement américain. J'ai eu du mal à trouver le Moyen-Orient là-bas. J'avais l'impression d'être complètement en Europe, sauf, bien sûr, à Jérusalem-Est. Mais sinon, du côté israélien, c'est vraiment complètement européanisé. C'est la première chose qui m'a frappée.
C'était peut-être la deuxième chose. Je t'interromps. On sent très fortement la présence des soldats, des militaires, des gens en armes?
Alors, en ce moment, justement, depuis 2 mois, dans les territoires, ils étaient moins présents, une présence plus discrète. Ils avaient adopté une position plus discrète. Ça a peut-être aussi quelques liens avec le problème du Golfe, mais on les voyait moins, en tout cas.
Et maintenant, bon, tu n'étais pas là quand se sont passés les terribles événements.
Non, ils sont toujours très présents, donc, toujours à tous les coins de rue.
Cette fusillade terrible qui a fait plus de 30 morts parmi les Palestiniens sur l'esplanade où se trouve le mur d'alimentation et la grande mosquée. Alors, tu as rencontré de nombreux groupes de femmes dans ton voyage, soit en Israël, soit dans les territoires occupés.
Oui, alors du côté israélien, j'ai surtout rencontré des féministes qui travaillent pour la paix, en particulier à Jérusalem, un groupe qui s'appelle Shani, Femmes contre l'occupation, et les Femmes en Noir, donc qui manifestent toutes les semaines contre l'occupation. Et j'ai rencontré également les femmes de l'Organisation pour les prisonnières politiques, dont il y a un groupe à Jérusalem et un groupe à Tel Aviv. Et ce groupe de Tel Aviv, surtout, est en contact avec l'étranger, et entre autres ici avec Genève, pour régulièrement envoyer des informations au sujet de la situation de ces prisonnières. Ça, c'est les groupes. J'en ai rencontré d'autres, mais c'est ceux qui m'ont paru le plus intéressant côté israélien. Et côté palestinien, j'ai été visiter nos amis à Ramallah, dont Roger est enseignant à Bir Zeit, qui est plus souvent fermé qu'ouvert. Et Laura travaille avec l'Union palestinienne pour le secours médical. C'est des comités qui travaillent au niveau rural, qui essayent de décentraliser le système de santé et qui forment des travailleuses de la santé pour envoyer dans ces zones rurales.
Alors, est-ce que ces rencontres ont donné quelques espoirs ?
Bon, il faut dire que moi, je suis arrivée dans une période où il y avait un creux de l'intifade. Hein. C'était une période plutôt calme et plutôt désespérée, il faut quand même le dire. Parce qu'à cause du problème du Golfe et de la position palestinienne, les amis palestiniens ont perdu une grande partie de leur soutien international. Ils ont dit que la plupart de leurs comités, en particulier ceux qui sont d'existence récente, ceux qui sont nés du temps de l'intifade, à qui trouvaient cette lutte, que c'était des victimes qu'il fallait soutenir, c'était une par mode plutôt qu'autre chose, les ont tous laissés tomber en leur envoyant des lettres atroces, j'en ai vu, qui leur disent, écoutez, nous on est d'accord de vous soutenir que si vous faites ce qu'on vous dit de faire. Donc il faut que vous adoptiez la position fédéraliste et puis il faut que vous souteniez pas Saddam. Ce qui moi me fait tomber les bras, je veux dire, c'est une forme d'incompréhension complète des relations Nord-Sud, mais pour eux c'était quand même très minant. Et les femmes du WOP, donc ce groupe pour soutenir les prisonnières politiques, même résultat. Hein. Elles ont aussi perdu une partie importante de leur soutien à l'étranger, donc ils étaient tous assez minés par ce fait.
Est-ce que les groupes de femmes israéliennes rencontrent les femmes palestiniennes ?
Alors oui, bien sûr. Shani, par exemple, organise régulièrement des réunions avec les comités de femmes palestiniens, font du travail éducatif, c'est-à-dire essayent d'informer les enseignants et leur faire rencontrer leurs semblables de l'autre côté. Il y a d'autres groupes qui travaillent que là-dessus. Que sur des rencontres, faire des échanges entre classes du même âge, entre enfants palestiniens et israéliens, les faire échanger des lettres d'abord, essayer de faire tomber la haine, essayer de faire tomber les mythes et les préjugés que chacun a au sujet de l'ennemi.
Est-ce qu'on peut penser que c'est à travers ces rencontres que se construit un véritable réseau de femmes qui lutteront efficacement contre l'occupation et la guerre ?
Moi, je pense qu'il y a tout à fait un réseau qui est en train de s'établir. Les communications ne sont pas toujours faciles, mais elles se débrouillent, elles y arrivent. Il y a des groupes qui n'étaient pas en contact avant, qui commencent à l'être. Et il y a définitivement, du côté palestinien, un changement dans leur attitude, parce que maintenant, ils ont vraiment envie de rencontres, de discussions. Ils sont vraiment, on sent qu'ils sont vraiment prêts à négocier et qu'ils font vraiment plein d'efforts pour de rencontres. Hein. Ça, c'est vraiment évident.
Merci beaucoup. Alors, tu nous as mis l'eau à la bouche, ça nous a vraiment beaucoup intéressé. On aimerait savoir un peu plus sur ces groupes. Alors, entre autres, par exemple, le WOPF, le groupe de soutien aux femmes palestiniennes détenues, qui font un travail, je crois, assez extraordinaire de trouver ces femmes palestiniennes et d'essayer d'obtenir leur libération.
Alors oui, en effet, toutes les femmes qui sont arrêtées israéliennes ou juives, il y a aussi une prisonnière juive en ce moment, passent toutes par le Russian Compound, qui est le lieu d'interrogation et de détention avant les procès, qui se trouve à Jérusalem. On le sait, des tortures ont lieu, autant pour les mineurs que pour les majeurs. Et donc c'est extrêmement important qu'ils puissent rentrer en contact avec des avocats. C'est le problème des adolescents masculins, ils ne peuvent pas rentrer en contact avec personne pour un minimum de 18 jours, ce qui est absolument illégal. Alors elle, du côté féminin, elle défend environ 50 à 80 prisonnières. Elles envoient régulièrement des avocates, autant de Tel Aviv que de Jérusalem, et elles essayent d'intervenir pour couper cette période d'isolement et afin qu'elles puissent s'exprimer sur ce qu'elles subissent. Alors, je ne vais pas m'étendre sur les formes de torture qu'elles subissent, mais il y a du harcèlement sexuel, menaces de viol, et le confinement dans des cellules minuscules, en position debout non-stop ou accroupie non-stop dans un sorte de coffre. Et elles essayent aussi d'intervenir si les déclarations que les femmes ont faites ont été données sous torture, essayer de contester ces déclarations. Elles essayent d'intervenir quand ces femmes sont malades ou ont été blessées par ces tortures, d'obtenir un traitement médical pour elles, ce qui n'est pas toujours facile. D'obtenir que ces femmes puissent avoir leurs enfants auprès d'elles, si c'est des enfants en bas âge, en période d'allaitement. Et elle vient d'obtenir un succès maintenant, le groupe de Tel Aviv, même en obtenant finalement la libération de la femme, parce qu'elles n'arrivaient pas, la police n'arrivait pas à donner des conditions suffisantes pour prendre le bébé, donc ils ont finalement été obligés de lâcher tout le monde, ce qui est une grande victoire. Et définitivement, elles nous font dire que le soutien international et les lettres de protestation qu'on envoie de l'étranger ont un impact énorme sur la situation de ces femmes.
Merci. Alors le WOPF, le groupe de soutien pour femmes palestiniennes détenues, a une antenne à Genève qui se réunit chaque semaine, qui publie un petit bulletin. On reviendra d'ailleurs sur l'action de ce groupe dans les semaines qui suivent, mais vous pouvez en tout cas, si ça vous intéresse, les contacter.
Alors tous les lundis à 19h30, 4 rue Hugo de Senguer, qui est la maison de quartier de Plainpalais. Et le lundi 22, nous continuerons cette discussion suite à mon voyage avec toutes celles et tous ceux qui seront intéressés.
Merci beaucoup. À Genève, à la télévision, une présentatrice déplacée, probablement pour cause de grossesse. Muriel Siki, présentatrice du téléjournal, quittera son poste à la fin décembre. La journaliste n'est pas licenciée, mais elle ne paraîtra plus à l'antenne. La décision a provoqué de vives inquiétudes et réactions dans la tour télévision. Des collègues de Muriel Siki auraient adressé une lettre de protestation. Les consoeurs de Muriel font notamment observer qu'il est pour le moins inélégant de déplacer brutalement une personne qui, d'autre part, n'a jamais démérité et qui, d'autre part, attend un enfant. Manifestation à Genève de l'organisation Greenpeace qui occupe les bureaux du GATT. L'organisation écologiste proteste contre la négociation en cours d'un accord concernant la biotechnologie. Des militants de Greenpeace ont occupé le bâtiment du GATT lundi entre 8 et 11 heures. Ils ont déployé une banderole portant l'inscription « Pas de brevet sur la vie ». Quelques manifestants étaient juchés sur le toit, deux autres suspendus contre la façade et cinq autres enchaînés devant l'entrée. L'organisation écologiste entendait protester contre la négociation en cours d'un accord concernant la biotechnologie. La conclusion d'un accord international sur ce genre de brevet transformerait la vie en marchandise brevetable, estime l'organisation. Greenpeace vise particulièrement la Suisse, qu'elle accuse d'être l'un des plus chauds partisans de la brevetabilité du vivant. La vie n'est pas une invention humaine, on ne peut pas la breveter sous quelque forme que ce soit, estime l'organisation.